France Culture.
Bienvenue à tous dans les Midi de Culture. À 13h, je recevrai Valéria Bruni-Tedeschi à l'occasion de la sortie du film de Karine Tardieu, L'Attachement. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture. Bonjour Sophie-Catherine Gallet.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. L'Opéra de Lyon a lancé en janvier un nouveau dispositif qui durera jusqu'à mars, le camion Opéra. C'est un camion donc qui arpente les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'installant sur des places ou encore des parcs. Et à l'intérieur se déploie un spectacle. L'Opéra itinérant, qui s'arrête d'ailleurs aujourd'hui dans la commune de Val-d'Ouin dans le Rhône, c'est notre dossier du Point Culture du jour. Richard Brunel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Opéra de Lyon et vous êtes à l'origine de ce projet qui débute tout juste, le camion Opéra. Alors quand on pense opéra, on pense aussitôt grande salle, mise en scène, orchestre. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement ce camion Opéra? Comment ça se présente?
Alors de manière très concrète, le camion Opéra, ce sont deux remorques qui s'accolent et qui créent une surface dans laquelle on peut faire rentrer un gradin d'une petite centaine de spectateurs et une scène de 6 mètres par 8 sur laquelle trois instrumentistes et deux chanteurs développent une histoire. Enfin, là, c'est toute une création, hein. C'est-à-dire qu'on a passé commande à une compositrice, à une metteuse en scène et à une librettiste, et elles ont ensemble fabriqué une œuvre. Et donc ce camion se déploie, il faut 30 mètres par 30, on peut se placer dans plein d'endroits, évidemment, plus favorablement dans des lieux, notamment des petites communes. Là, on était avant-hier à Beauchastel en Ardèche, dans une commune de 1800 habitants, et donc aller dans des endroits où il y a moins d'accès à la culture. Et s'il y a de l'accès à la culture, il n'y a pas forcément d'accès à l'opéra. C'est vraiment l'idée de rapprocher l'opéra des habitants et des habitantes qui en sont éloignés.
Et vous avez choisi justement, donc vous commenciez à l'évoquer, de ne pas programmer des œuvres du répertoire classique, mais plutôt de commander donc une œuvre originale. Et donc c'est un opéra contemporain qui est joué dans ce camion opéra. Est-ce que c'était aussi une manière de mettre en valeur la création contemporaine, de rappeler que l'opéra, justement, ce ne sont pas seulement les grands classiques?
Oui, tout à fait. Il fallait, d'un côté, j'allais dire, faire Carmen ou la flûte enchantée dans un camion de 6 par 8 avec trois musiciens et deux chanteurs, ça n'a aucun intérêt, je pense, sur le plan artistique. Et c'est bien plus intéressant de favoriser la création contemporaine. Tout de suite, quand on parle de création contemporaine, on peut entendre difficulté, âpreté, aridité de la musique. Pas du tout. Là, il s'agit d'une œuvre très accessible sur un sujet qui nous touche, qui nous concerne. Mais aussi, je suis convaincu qu'avec des nouveaux récits, on fait venir de nouveaux publics.
Et quel récit, justement? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'est ce opéra?
Ah oui, alors le récit de cet opéra, c'est un opéra qui a à l'origine du projet, c'était l'idée de parler de l'eau. La première idée, c'est de se dire faire un opéra autour de la question de l'eau. Et la librettiste et la metteuse en scène ont eu l'idée d'observer le phénomène des algues rouges qui comme des traces de sang teintent les glaciers. Et ça, c'est dû au réchauffement climatique. Et à partir de cette image, finalement, du glacier en sang, l'idée de développer une forme d'histoire un peu, je dirais, dystopique, vraiment une fiction, où tout d'un coup, elles imaginent que les algues contaminent les eaux potables, qu'elles puissent carrément immobiliser les fleuves ou les assécher même. Et donc, c'est une sorte un peu de réalisme magique. Et donc là, on se trouve avec deux personnages, Sophia, qui est une ingénieure hydraulique, qui est isolée, mais qui travaille sur cette chose-là et qui reçoit des messages et qui découvre en fait qu'il y a ce développement des algues rouges. Et puis son frère, qui lui ne se sont pas parlé depuis très très longtemps, qui l'appelle parce que il découvre que le tourisme un peu malsain fait fondre évidemment plus rapidement les glaciers. Et avec cette fonte, il y a des tas de choses qui ressurgissent, et notamment le corps d'un homme. Il se trouve que l'homme, c'est le père. Et c'est un peu une sorte de réconciliation entre un frère et une sœur autour de la mort du père, mais avec toute une histoire souterraine sur la question climatique, la question de cette fonte des glaciers, de l'eau comme importance dans nos vies, etc. etc. Et c'est accessible dès 14 ans. Hein. On a vraiment pensé l'œuvre pour aussi du public jeune.
Ouais. Alors là, donc, dans ce que vous nous racontez, il y a une création qui effectivement est très contemporaine, avec des thématiques aussi très contemporaines. Et on imagine, alors si on, dans l'histoire que vous racontez, on imagine que ça se passe comme ça dans un lieu relativement petit quand même, malgré tout. J'imagine qu'il y a forcément une proximité plus grande entre le public, les musiciens, les chanteurs. Alors est-ce que ça change quelque chose au fond dans l'expérience qu'on a de l'opéra, de ce genre musical?
Je pense totalement, parce qu'on a les pieds dans la scénographie, on a le corps qui est à quelques mètres à peine des chanteurs, et donc on a une vibration émotionnelle de la voix, de l'histoire, aussi de la musique. La harpe, le violoncelle et l'accordéon sont vraiment à 1,50 m du premier rang. On a une proximité qui, je pense, est beaucoup plus forte sur le plan émotionnel et sur le plan, je dirais, de l'impression qu'on peut avoir de l'opéra.
Alors, est-ce que finalement le camion opéra est pensé comme une porte d'entrée vers l'opéra en salle pour attirer, donc, comme vous le disiez, un public qui n'a peut-être pas l'habitude ou en tout cas la possibilité d'y aller, ou est-ce que on devrait plutôt peut-être le penser comme un dispositif artistique en soi finalement?
Oh, ça peut être les deux. C'est-à-dire, d'un côté, ça permet d'aller vers. Et c'est vrai que quand le camion s'installe dans une petite commune, ça crée un événement et donc de l'attention et donc même de la considération. L'autre jour, il y a un monsieur qui nous a dit, mais on a l'impression de moins être abandonné. C'est pour dire que l'éloignement peut être important. Et en même temps, ça permet, je pense, ce camion de transporter des formes artistiques très différentes. Et je pense que par le contemporain, parce qu'on rapporte nos sujets d'aujourd'hui, on peut davantage toucher le public. Mais c'est vrai que l'Opéra de Lyon, on a plusieurs projets. Par exemple, l'été, on a ce qu'on appelle l'Opéra sous les étoiles. Et donc on diffuse sur grand écran, dans des tas d'endroits, des plus petites communes jusqu'à des plus grandes villes, de l'opéra sur grand écran. Évidemment, c'est pas du tout la même expérience que d'entrer dans le camion et d'être à 1,50 m d'une soprano dont les vocalises vous transpercent.
Et justement, alors pour revenir peut-être au tout début du projet, comment cette idée est née? Quelle a été l'impulsion qui vous a guidé pour imaginer donc ce projet?
Écoutez, moi j'ai été directeur d'un centre dramatique national pendant 10 ans, et pendant ces 10 années, on a fait beaucoup de ce qu'on appelait donc à l'époque la comédie itinérante dans des petites communes de Drôme et d'Ardèche. Et à partir de là, je me suis dit que l'opéra pouvait sans doute développer un projet comme celui-là et avoir une mission finalement celle du service public de l'art et de la culture, et que la méthode pouvait être celle de la proximité, du voyage, et que par l'opéra, par la musique, parce que le constat est géographique, l'Opéra de Lyon est à Lyon, et pour certaines personnes de la région, c'est à 2h30. Donc on n'imagine pas le soir faire 2h30 pour venir, voir un opéra de 3h et refaire 2h30. Enfin, ça paraît complexe. Ou alors il faut venir plutôt en matinée. Mais donc pour nous, c'était, et particulièrement pour moi qui suis un metteur en scène et qui vient aussi de la décentralisation théâtrale et de cette idée que finalement par la proximité, on peut changer. On ne sait jamais les traces qu'on laisse. Donc autant aller très proche des gens et avec une mission artistique dans des quartiers de ville ou alors dans des communes éloignées. On peut créer un opéra d'utilité sociale.
Merci beaucoup Richard Brunel.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, la projection du film Z de Costa Gavras, perturbé par des militants d'extrême droite.
Dans ce long métrage de 1969, le réalisateur raconte l'enquête policière suivant l'assassinat du président d'un mouvement pacifiste par un militant fasciste. Alors ce dimanche à Paris, la réalité a quelque peu rattrapé la fiction, puisque lors de la projection de ce film par le mouvement antifasciste Young Struggle, une trentaine de militants d'extrême droite ont fait irruption dans la salle et s'en sont pris à plusieurs spectateurs. Deux personnes ont ainsi dû être prise en charge à l'hôpital, l'une d'entre elles ayant reçu un coup de couteau. Sur une vidéo, on peut apercevoir un des militants d'extrême droite hurler dans la rue après l'attaque « Paris est nazi ». Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Paris. 6 personnes ont déjà été interpellées.
Et pour finir, l'écrivaine canadienne Antoine Maillet est décédée hier.
Âgée de 95 ans, cette grande figure de la francophonie a écrit une quarantaine d'œuvres dont beaucoup ont pour toile de fond l'histoire et la culture des Acadiens, ces francophones qui habitent la côte atlantique du Canada. Elle fut notamment la première non-européenne à recevoir le prix Goncourt en 1979 pour son livre Pélagie la charrette. Dans ce roman, elle revient justement sur le grand dérangement, épisode mal connu de l'histoire du XVIIIe siècle, durant lequel des milliers d'Acadiens furent déportés par les troupes britanniques vers le sud des États-Unis.
Merci beaucoup Sophie-Catherine, on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles.